Chapitre 24. Le siècle des Lumières. De la manière de fabriquer une aiguille jusqu'à la manière de fondre des canons.
Hilde avait commencé à lire le chapitre sur la Renaissance, mais elle entendit sa mère rentrer. Elle regarda l'heure. Il était 4 heures. Sa mère monta les marches à toute vitesse et ouvrit précipitamment la porte. « Tu n'es pas allé à l'église ?»« Mais si. »« Mais qu'est-ce que tu avais sur toi ?»« Eh bien, la même chose que maintenant. »« Quoi ? Tu ne veux pas dire cette chemise de nuit ?»« Je suis allée dans l'église Sainte-Marie. »« L'église Sainte-Marie. »« C'est une vieille église en pierre du Moyen-Âge. »« Hilde !» Elle laissa glisser le classeur sur ses genoux et regarda sa mère. « J'ai complètement oublié l'heure, maman. Je suis désolée, mais il faut que tu comprennes que je suis en train de lire quelque chose de tout à fait passionnant. » Sa mère esquissa un sourire. « C'est un livre magique !» ajouta Hilde. « Bon, bon. Eh bien, joyeux anniversaire, Hilde. Oh, je commence à en avoir marre de toutes ces félicitations. Mais enfin !» Bon. Eh bien, je descends m'allonger un moment avant de commencer à préparer un bon repas. J'ai pu trouver des fraises. Je lis. Sur ce, sa mère descendit, et Hilde put poursuivre sa lecture. Elle en était arrivée au moment où Sophie traverse toute la ville en suivant Hermès. Dans la cage d'escalier d'Alberto, elle trouve une autre carte du Liban, datée elle aussi du 15 juin. Elle comprit enfin le système des dates. Les cartes datées avant le 15 juin étaient des copies de cartes que Hilde avait déjà reçues. Mais celles datées d'aujourd'hui, elle les lisait dans le classeur pour la première fois.
Chère Hilde, Sophie arrive à présent à la maison du professeur de philosophie. Elle aura bientôt 15 ans, alors que toi, tu les as eues hier. À moins que ce ne soit aujourd'hui, ma petite Hilde. Si c'est aujourd'hui, c'est en tout cas plus tard dans la journée. Il faut dire que les montres ne sont pas toujours réglées sur la même heure.
Hilde lut comment Alberto présenta à Sophie la Renaissance, les rationalistes du XVIIe siècle et les empiristes britanniques. À chaque insertion de cartes ou de vœux d'anniversaire dans l'histoire, elle sursautait un peu. Son père arrivait par des tours de passe-passe à en glisser dans un cahier de cour, à l'intérieur d'une peau de banane, ou dans un programme d'ordinateur. Il faisait fourcher la langue d'Alberto pour lui faire dire « Hilde » au lieu de « Sophie ». Et ça, c'était peut-être le summum, il parvenait à faire dire à Hermès « Bon anniversaire, Hilde ». Hilde était d'accord avec Alberto pour reconnaître qu'il allait un peu loin quand il se comparait à Dieu et à la Providence. Mais au fond, avec qui était-elle d'accord ? N'était-ce pas son propre père qui avait placé ses paroles de reproche, en somme d'auto-accusation, dans la bouche d'Alberto? Et après tout, ce parallèle avec Dieu, ce n'était pas si idiot que ça, puisque son père jouait bien le rôle d'un Dieu tout-puissant aux yeux de Sophie. Quand on aborda Berkeley, Hilde était tout aussi intéressée que Sophie l'avait été. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Son nom avait déjà été plusieurs fois mentionné pour dire qu'il se passerait quelque chose de décisif avec ce philosophe qui avait nié l'existence d'un monde matériel en dehors de la conscience humaine. Hilde avait eu beau tricher en regardant dans l'encyclopédie, elle n'avait rien trouvé qui l'intéressât directement. Il y eut l'histoire de l'avion et de sa banderole avec les félicitations d'anniversaire. Puis, les gros nuages de pluie s'amoncelèrent au-dessus de la ville.
Être ou ne pas être n'est donc pas toute la question. Il faut aussi se demander ce que nous sommes. Sommes-nous de vrais êtres humains en chair et en os? Notre monde est-il constitué de choses réelles ou sommes-nous seulement entourés de conscience?
Rien d'étonnant à ce que Sophie commence à se ronger les ongles. Hilde n'avait jamais eu cette mauvaise habitude, mais elle n'en menait pas large non plus. Enfin, ce fut dit noir sur blanc.
Pour nous, cette volonté ou cet esprit qui agit sur tout peut fort bien être le père de Hilde.
Et plus loin?
Tu veux dire
qu'il a été une sorte de Dieu pour nous ?
Oui, et sans être le moins du monde gêné. Quel culot !
Et Hilde dans tout ça ?
Elle est un ange, Sophie.
Un ange ?
Hilde est celle à qui s'adresse cet esprit.
Sur ces mots, Sophie quitte précipitamment Alberto et sort sous la pluie battante. Ce ne pouvait pourtant pas être le même orage qui, cette nuit, s'était abattu sur Bjerkeli quelques heures après que Sophie a traversé toute la ville en courant.
« Demain, c'est mon anniversaire, » réfléchissait-elle. N'était-ce pas un peu amer de se rendre compte la veille de ses 15 ans que la vie n'était qu'un songe ? C'était comme rêver de décrocher le gros lot d'1 million et comprendre juste au moment de toucher la somme que ce n'était que du vent.
Sophie coupa par le stade gorgé d'eau. Elle aperçut alors quelqu'un qui courait à sa rencontre. C'était sa mère. Plusieurs éclairs déchirèrent le ciel. Sa mère la serra violemment contre elle.
« Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie ?»«
Je ne sais pas, » répondit Sophie en larmes. « C'est comme un mauvais rêve. »
Les larmes montèrent aux yeux de Hilde. « To be or not to be, that is the question. » Elle jeta le classeur à l'autre bout du lit et marcha de long en large dans la chambre. Pour finir, elle s'arrêta devant le miroir, et c'est là que sa mère la surprit quand elle vint la chercher pour déjeuner. En entendant sa mère frapper à la porte, Hilde se rendit compte qu'elle était restée là un bon moment. Mais elle était sûre d'une chose. Pour la première fois, elle avait vu son reflet dans la glace cligner des deux yeux. Elle essaya au cours du repas de se montrer reconnaissante des efforts que sa mère faisait pour son anniversaire. Mais son esprit était ailleurs, auprès de Sophie et d'Alberto. Qu'allait-il advenir d'eux, maintenant qu'il savait que le père de Hilde tirait toutes les ficelles ? Encore qu'il ne savait pas grand-chose, au fond. C'était seulement son père qui leur laissait croire qu'il savait quelque chose. Cela dit, le problème restait le même. Maintenant que Sophie et Alberto étaient au courant, l'histoire devait connaître un dénouement rapide. Elle faillit avaler de travers un gros morceau de pomme de terre quand elle se rendit compte que le même problème se posait pour son propre monde. Les hommes avaient constamment progressé dans la compréhension des lois de la nature. Mais l'histoire pouvait-elle se poursuivre indéfiniment une fois qu'étaient mises en place les dernières pierres de l'édifice que constituaient la philosophie et la science ? Les hommes n'approchaient-ils pas de la fin de l'histoire ? Il y avait pourtant bien un parallèle entre le développement de la pensée et de la science d'un côté, et l'effet de serre et la mort des forêts à cause de la pluie acide de l'autre. Ce n'était peut-être pas si bête que ça, de voir en ce perpétuel besoin de connaissances une forme de chute originelle. Cette question parut d'une importance si capitale que Hilde en fut effrayée et essaya de l'oublier. D'ailleurs, n'en saurait-elle pas davantage en poursuivant sa lecture ? « Dis-moi ce que tu veux », chantonna sa mère quand elles eurent fini de manger les fraises italiennes. « C'est toi qui décides. » « Ne le prends pas mal, mais j'ai juste envie de continuer à lire le livre que papa m'a offert. » « Si tu veux, du moment qu'il ne te rend pas complètement folle. » « Mais non, on pourrait plus tard manger une pizza en regardant Derrick. » « Oui, pourquoi pas ?» Il revint à l'esprit de Hilde la manière dont Sophie avait parlé à sa mère. Papa n'avait quand même pas osé s'inspirer de la mère de Hilde pour créer le personnage de la mère de Sophie. Dans le doute, il valait mieux s'abstenir, au moins pour aujourd'hui, de parler du lapin blanc qu'on tirait du chapeau haut de forme de l'univers. « Au fait, » fit-elle au moment de quitter la table. « Oui ?» « Je ne retrouve plus ma croix en or. » Sa mère la regarda d'un air plein de sous-entendus. « Je l'ai trouvée en bas près de la jetée, voici déjà plusieurs semaines. C'est là que tu as dû la perdre, étourdie que tu es. Tu l'as dit à papa ? Oh, je ne sais plus, c'est possible. Eh bien, où est-elle maintenant ?» Sa mère alla chercher son coffret à bijoux. Un cri de stupéfaction monta de la chambre à coucher. « Tu ne devineras jamais, impossible de mettre la main dessus !» répondit sa mère en revenant dans le salon. Je m'en doutais. » Elle embrassa rapidement sa mère et regagna sa chambre. Enfin, elle allait pouvoir poursuivre sa lecture sur les aventures de Sophie et d'Alberto. Elle s'installa bien dans son lit et cala le classeur contre ses genoux.
Sophie fut réveillée le lendemain matin par sa mère qui entra en lui apportant un plateau rempli de cadeaux. Elle avait même planté un petit drapeau norvégien dans une bouteille de soda vide. « Bon anniversaire, Sophie !» Sophie frotta ses yeux qui étaient encore tout ensommeillés. Elle essaya de se rappeler tout ce qui s'était passé la veille. Mais ce n'était que des pièces d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas à assembler. Il y avait Alberto, il y avait Hilde et le major, Berkeley et Bierkeli. La pièce la plus foncée du puzzle, c'était le violent orage. Elle avait eu comme une crise de nerfs. Sa mère l'avait frottée énergiquement avec une serviette et mise au lit purement et simplement avec une bonne tasse de lait chaud au miel, et elle s'était endormie sur le champ.
« Je crois que je suis encore en vie »,
parvint-elle à balbutier. « Mais enfin, quelle idée! Tu as même 15 ans aujourd'hui !»«
Tu en es vraiment sûr ?»«
Évidemment. Tu penses qu'une mère peut oublier la date de naissance de son unique enfant ?» Le 15 juin 1975, à 1h30, Sophie. Je crois que cela a été le plus beau moment de ma vie.
Et si tout cela n'était qu'un rêve?
Ce ne serait en tout cas pas un rêve si désagréable que de se réveiller entouré de tartines beurrées, de jus d'orange et de cadeaux d'anniversaire. Elle déposa le plateau avec les cadeaux sur une chaise et disparut un instant de la chambre avant de revenir avec un autre plateau chargé cette fois de tartines beurrées et de jus d'orange qu'elle mit au pied du lit de Sophie. Puis, ce fut le traditionnel déballage de cadeaux qui remontait aussi loin dans le souvenir que possible, peut-être même jusqu'au premier gémissement du bébé qu'elle avait été. Sa mère lui offrit une raquette de tennis. Elle n'avait encore jamais joué au tennis, mais il y avait des cours de tennis à 5 minutes de l'allée des trèfles. Quant à son père, il lui avait fait parvenir une mini-chaîne avec écran de télévision et bande FM. L'écran n'était guère plus grand qu'une photo. Elle reçut aussi toutes sortes de menus présents de la part de vieilles tantes et d'amis de la famille. « Veux-tu que je reste à la maison aujourd'hui ?» demanda sa mère au bout d'un moment.
« Non, pourquoi ça ?»«
Tu n'allais vraiment pas bien hier soir. Si ça continue, je pense qu'il serait plus sage d'aller consulter un psychologue. »
« Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. »
« C'était à cause de l'orage ? Ou bien à cause de cet Alberto ?»«
Et toi là-dedans, n'as-tu pas dit toi-même « Mais qu'est-ce qui nous arrive, ma chérie ?»«
Je pense que si tu commences à traîner en ville et rencontrer des gens bizarres, c'est peut-être de ma faute. »
« Ce n'est la faute de personne si je suis un petit cours de philosophie quand je n'ai rien d'autre à faire. Allez, va à ton travail. On doit tous se retrouver à l'école à 2 heures. On va nous remettre nos bulletins et il y a une petite fête après. »
« Tu connais déjà tes notes ?»«
J'aurai en tout cas de bien meilleures notes qu'au dernier trimestre. »
Peu après le départ de sa mère, le téléphone sonna.
« Allô ? Qui est à l'appareil ?»«
C'est Alberto. »
« Ah !»«
Le major n'a pas lésiné sur les munitions hier. »«
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. »«
Je parle de l'orage, Sophie. »«
Je ne sais pas trop ce que je dois en penser. »«
C'est pourtant le premier devoir d'un vrai philosophe. »« Je suis assez fier de tout ce que tu as appris en si peu de temps, tu sais. »«
Je crains que rien de tout ceci ne soit réel. »«
C'est ce qu'on appelle l'angoisse existentielle, et qui n'est la plupart du temps qu'une étape sur le chemin de la connaissance. »
Je crois que j'ai besoin de faire une pause dans le cours.
As-tu en ce moment beaucoup de grenouilles dans ton jardin ?
Sophie ne put s'empêcher de rire.
Je crois que nous ferions mieux de continuer,
poursuivit Alberto.
Bon anniversaire, du reste. Il faut terminer ce cours avant la Saint-Jean. C'est notre dernier espoir.
Notre dernier espoir ?
Est-ce que tu es bien assise ? Cela va demander un peu de temps, tu comprends?
Ça va, je suis bien assise.
Tu te souviens de Descartes?
Je pense donc je suis?
Si nous continuons cette mise en examen systématique, nous aboutissons à une impasse. À force de douter, nous ne savons même plus si nous pensons. Qui sait si nous n'allons pas finir par nous convaincre que nous ne sommes que des pensées et que cela n'a rien à voir avec le fait de penser par soi-même. Nous avons de bonnes raisons de croire que nous sommes le fruit de l'imagination du père de Hilde, qui, de cette manière, offre à sa fille restée à l'île Sand une petite distraction pour son anniversaire. Tu me suis ?
Oui.
Mais il y a aussi une contradiction. Si nous ne sommes que des créatures imaginaires, nous n'avons pas le droit de croire en quoi que ce soit. Et dans ce cas, toute cette conversation téléphonique ne serait qu'une pure illusion.
Et nous n'aurions pas non plus le moindre libre arbitre ou la moindre volonté. Le major nous dicterait nos propos et nos actes. Alors, nous pourrions tout aussi bien raccrocher tout de suite.
Non, là tu simplifies un peu trop.
Explique-toi.
Tu veux dire qu'un homme planifie tout ce que nous rêvons ? Il est possible que le père de Hilde sache exactement tout ce que nous faisons. Échapper à sa conscience serait aussi difficile qu'échapper à sa propre ombre. Cependant, je suis en train de mettre sur pied un plan très précisément à partir de ce point. Rien ne nous permet d'affirmer que le major a déjà prévu tous les événements à venir. Il se peut qu'il ne décide qu'au dernier moment, quand il écrit noir sur blanc ses idées. Et c'est dans ce laps de temps que nous pouvons peut-être imaginer que nous jouissons d'une relative indépendance dans nos paroles ou nos actes. Il est clair que notre rayon d'action est fort limité comparé à la toute-puissance du major. Nous sommes en quelque sorte soumis aux circonstances extérieures, comme ces chiens qui se mettent à parler, ces avions qui laissent flotter des banderoles avec des félicitations d'anniversaire, ces bananes à messages et ces orages télécommandés. Nous ne devons pas toutefois exclure le fait que nous avons une volonté autonome, aussi infime soit-elle.
Mais comment ça ?
Le major sait tout de notre petit monde. Cela va de soi. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il est tout puissant. Nous devons en tout cas essayer de vivre comme s'il ne l'était pas.
Je crois que je comprends ce que tu veux dire.
Le fin du fin, ce serait de réussir à faire quelque chose de notre propre chef, sans que le major s'en aperçoive.
Mais comment faire si nous n'existons pas vraiment ?
Qui a dit que nous n'existons pas ? La question n'est pas de savoir si nous existons, mais ce que nous faisons et qui nous sommes. Même s'il devait s'avérer que nous ne sommes que des pulsions de la conscience dédoublée du major, cela ne nous ôte pas pour autant notre petite existence.
Ni notre libre volonté.
C'est sur ce point que je travaille, Sophie.
Mais le père de Hilde ne doit pas apprécier que tu travailles justement sur ce point.
Non, pas du tout. Mais il ne connaît pas mon plan proprement dit. Je tente de trouver le point d'Archimède.
Le point d'Archimède ?
Archimède était un scientifique grec. Donnez-moi un point fixe et je soulèverai le monde, disait-il. C'est ce point qu'il s'agit de trouver pour déséquilibrer l'univers intérieur du major.
Ce n'est pas une mince entreprise.
Mais nous n'avons aucune chance d'y parvenir avant d'avoir terminé le cours de philosophie. Il exerce pour l'instant une pression beaucoup trop forte sur nous. Il a apparemment décidé que je devais te servir de guide à travers les siècles jusqu'à notre époque. Mais nous n'avons que quelques jours devant nous avant qu'il ne prenne son avion quelque part au Moyen-Orient. Si nous n'arrivons pas à nous libérer de son imagination vraiment collante avant son arrivée à Birkeli, alors nous sommes perdus.
Tu me fais peur.
Tout d'abord, il y a un certain nombre de choses à savoir sur le siècle des Lumières en France avant de pouvoir brosser à grands traits la philosophie de Kant et aborder ensuite le romantisme. Hegel marquera, nous le verrons, une étape décisive. Ce qui nous amènera bien évidemment à parler de la critique indignée de Kierkegaard vis-à-vis de la philosophie hegelienne. Nous devrons également dire quelques mots de Marx, Darwin et Freud. Si nous arrivons à conclure avec Sartre et l'existentialisme, notre plan peut réussir.
C'est plutôt ambitieux comme programme pour une semaine.
Commençons sans plus tarder. Tu peux venir tout de suite?
Je dois d'abord passer à l'école. Il y a une petite fête et on doit distribuer nos bulletins.
Laisse tomber. Si nous ne sommes que pure conscience, le goût de la limonade et des gâteaux n'est que le fruit de notre imagination.
Mais mon bulletin...
Écoute, Sophie. Soit tu vis dans un univers merveilleux sur un minuscule point du globe qui n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres galaxies, soit tu déclenches des impulsions électromagnétiques dans la conscience d'un major. Et voilà que tu viens me parler de bulletin. J'aurais honte à ta place.
Excuse-moi.
Bon, va faire un tour à l'école avant. Cela pourrait avoir une mauvaise influence sur Hilde si tu séchais le dernier jour de classe. Elle est plutôt du genre à aller à l'école même le jour de son anniversaire, car c'est un ange.
Alors, je passe tout de suite après.
On peut se donner rendez-vous au chalet du major.
Au chalet du major ?